faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Gloire à Dieu, nous allons nous tenir debout et nous allons prier l'Éternel pour la parole. Dis avec moi l'amour. L'amour. Ce message de l'amour, nous en avons besoin pour nos vies. Mais la Côte d'Ivoire, notre entourage, notre environnement, on a plus que besoin. Communiquer l'amour, la paix de Dieu. Nous voulons donc élever nos voix vers le Seigneur afin que Dieu nous accorde sa grâce ce matin. Sa grâce de comprendre sa parole et sa grâce de l'appliquer. Sa grâce de comprendre ce qui est dit avec profondeur et de pouvoir appliquer cette parole. Sa grâce sur ma vie afin que je donne cette parole-là selon son esprit. Ensemble, élevons nos voix vers l'Éternel. Prions Dieu pour la parole du Seigneur. Seigneur, c'est ta parole qui change, c'est ta parole qui transforme, c'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui est une lampe sur nos sentiers. Éternel, je t'invoque afin que ce matin tu m'enseignes, afin que ce matin tu me parles, afin que ce matin tu me transformes, afin que ce matin, Seigneur Dieu, tu me donnes d'aller de l'avant avec toi. Saint-Esprit, donne-moi, accorde-moi la grâce d'être un fidèle serviteur, de transmettre ta parole, la parole de Dieu, avec la puissance qui vient de toi, avec la puissance qui vient de toi. Saint-Esprit, inonde-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Apprends-nous à marcher dans tes voies, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur l'amour. La plus puissante des vertus. Depuis l'année dernière, nous sommes en train de travailler le caractère de Dieu. Et de toutes ces choses que nous avons apprises, la fidélité, la patience, la douceur, la bonté, la plus puissante de ces vertus, c'est l'amour. L'amour dans quel sens? L'amour dans le sens de aimer Dieu et puis aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Alléluia. C'est très, 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 très important. Amen. Toutes les autres caractéristiques de Dieu, tous les autres aspects du caractère de Dieu, la patience, la douceur, toutes ces choses-là sont rattachées d'abord à l'amour. Et c'est ce que nous allons voir. La dernière fois, nous avons parlé des 7 raisons pour lesquelles nous devons aimer. Amen. Je peux aussi reformuler cela en disant, cette récompense qui s'attache ou qui vient dans la vie de ceux qui manifestent l'amour. C'est-à-dire, quand je manifeste l'amour, il y a un résultat, il y a un fruit qui s'attache à ma vie. Amen. Et je disais tantôt que c'est très important aujourd'hui d'aimer. Parce que Jésus dit, dans le livre de Matthieu 24, en parlant des temps de la fin, il dit, en verset 11-12, il dit, le péché, l'iniquité va tellement s'accroître que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alléluia. Jésus donc dit que il y a un moment donné où il va se produire des choses injustes, méchantes, mauvaises. Quand on dit l'iniquité, c'est tout ce qui est mal. Ça veut dire le mal va tellement s'accroître que l'amour va se refroidir. Il n'y aura plus le même dynamisme. Amen. Les injustices vont tellement progresser que le cœur des croyants sera tenté de détester, de haïr, de mépriser. Vous savez, quand la Bible dit l'amour va se refroidir, l'amour ne se refroidit pas chez les païens parce que le païen n'a même pas l'amour agapé là dont on parle. Il s'agit ici des chrétiens. Mais pourquoi un chrétien qui aimait Dieu va voir son amour pour Dieu se refroidir? Qu'est-ce qui peut amener un chrétien à ne plus aimer Dieu comme au premier jour, qu'est-ce qui peut amener? Ce que j'ai compris, ça peut être la déception. Je veux dire, si quelqu'un fait ce que tu attends, pourquoi ton amour va se refroidir pour lui? La Bible dit que tellement l'injustice va s'accroître, l'amour pour Dieu va refroidir. Les croyants vont de moins en moins aimer Dieu. Ils vont de moins en moins aimer Dieu parce qu'ils seront, ils auront la convoitise, ils vont vouloir aimer les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est vrai. Mais il est probable qu'il se produise certaines choses, spirituellement parlant, qui vont peut-être les décourager dans leur zèle, dans leur vie de prière, dans leur vie de consécration pour Dieu. C'est-à-dire, avant, la façon dont j'aimais Dieu, là, je ne l'aime plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que j'attendais. Soit une justice que je voulais voir, quelque chose que j'attendais. Et puis, ça ne s'est pas manifesté comme ça. Donc, je suis découragé. Amen. Il y a bien une raison qui va amener les croyants à perdre leur amour. Il y a bien une raison. On ne se lève pas matin comme ça et puis on n'aime plus. La Bible dit, l'iniquité va tellement s'accroître que l'amour du plus grand homme va se refroidir. Mais Dieu ne justifie pas cela. Il ne dit pas, vous avez raison. Il dit, non. Il faut persévérer. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin en ce qui concerne l'amour, celui-là sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle donc de l'amour qui va se refroidir, on parle aussi donc de l'amour du prochain, de mon frère, de ma sœur. Pour que j'aime de moins en moins un frère ou une sœur, c'est parce que je suis confronté à des frustrations, à des choses que ces personnes-là ont faites ou à certaines choses qui me sont arrivées qui vont tenter mon amour et amener mon amour à se réduire. Si un frère fait toujours ce que j'apprécie, comment ça se fait que, comment mon amour peut refroidir? Ça ne peut pas refroidir. Si je m'entends avec tout le monde et que tout le monde est convenable avec moi, est-ce que mon amour peut se refroidir? Non. Si la Bible dit que l'amour va se refroidir, ça veut dire qu'il y aura des événements. Il va se produire certaines choses qui seront susceptibles d'amener l'amour des croyants à diminuer. Mais Dieu dit, nous devons persévérer. Toutes ces choses-là sont les signes de la fin. Alléluia. Sont les signes de la fin. Dans les livres de 2 Thessaloniciens chapitre 2, il parle du passage, il réduit un peu la même chose en parlant de, cette fois-ci, de la foi, la confiance en Dieu. Il dit, avant le retour de Jésus et même avant la manifestation de l'Antéchrist, il dit, l'apostasie, qui signifie la perte de foi, va d'abord se manifester. Beaucoup de croyants vont commencer à douter un peu. Ah, Dieu est là même là. Est-ce que c'est ça? Bon, prions-le quand même. Mais, on n'a pas dit l'amour va disparaître. On dit ça va se refroidir. Ça veut dire, tu n'es plus chaud comme avant. On n'a pas dit l'amour va disparaître. Tellement le péché va s'accroître, l'amour va se refroidir. Si tu aimais prier 10 heures de temps, il y a une manière de parler. Tu vas aller, tu vas dire non, on prie, on ne voit rien sur la terre. Donc ça se refroidit. De 10 heures, tu passes à 30 minutes. C'est qu'est-ce que Dieu? Bon, c'est trop. Bon, de 10 heures, tu passes à 1 heure. On dit, Dieu, je ne t'ai pas abandonné. Moi, je n'ai pas abandonné. Mais, en tout cas, mon premier zèle, là, c'est plus ça. C'est ce qu'on appelle refroidi. Ce n'est pas éteint. C'est toujours là, mais c'est froid. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, malgré ce que tu vas voir, malgré ce que tu vas entendre, malgré ce que tu dois vivre, ton amour pour Dieu ne doit pas se refroidir. Tu dois persévérer. Alléluia. Malgré ce que tu vas vivre, malgré ce que les personnes vont te faire, celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui va aimer, quand tout ce qui est autour de lui l'amène à ne pas aimer, qui va continuer à aimer, celui-là va vivre le salut de Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons d'amour, pour parler réellement d'amour, il faut le voir dans l'adversité. Je peux te demander, mon frère, est-ce que tu aimes tout le monde? Oui, j'aime. D'accord. Lorsque ta meilleure amie va te critiquer, elle va attraper d'autres copines. Ta meilleure amie s'appelle Gasparette. Gasparette, ta copine, va parler de toi de minuit jusqu'à 3 heures du matin avec d'autres copines pour te critiquer. Ça, c'est l'iniquité qui s'est accrue comme ça. Quand le lendemain, dimanche, tu vas la voir à l'église, c'est là qu'on saura si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Est-ce que tu vas saluer Gasparette? Mes amis, même les païens, lorsqu'ils ne sont pas oppressés, ils ne détestent pas les autres. Donc, si toi tu aimes, ou tu salues, ou tu fais du bien, ou tu es convenable, ou tu es poli, ou tu as des paroles, si tu as des paroles respectueuses, qu'envers ceux qui ne te font pas le mal, qu'est-ce que tu fais de plus qu'un païen? Quelle est-il la différence entre toi qui viens à l'église entendre la parole de Dieu, qui prie, et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Parce qu'un païen ne se lève pas un matin comme ça, regarder un individu qui passe, et puis il se met à le détester, sans qu'il ne lui ait rien fait. Qui agit comme ça? Et tu vois un gars, il marche. Il dit, celui-là, je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois que je le rencontre. Mais je le déteste comme pas possible. On dit, ah mon ami, pourquoi? Tu dis, non, c'est aujourd'hui seulement que je l'ai vu. Mais je le hais, je le hais. Là, on va t'amener à l'hôpital. Vous voyez? Donc, il y a toujours une raison qui pousse un individu à ne plus aimer. À ne plus aimer. Quand Dieu dit que tu vas aimer ton prochain, il ne s'agit pas d'un commandement qui s'applique quand tout va bien. C'est tellement facile d'aimer quand tout le monde est poli avec toi, quand tout le monde se comporte bien envers toi, quand tout le monde est convenable. Ça c'est le béaba. Ça c'est, il n'y a rien. Mais on parle d'amour. Lorsque les gens te critiquent, tu fais comment? Quand tu entends ce que Gasparette est en train de faire contre toi, comment tu réagis? Entre nous. Ton amour refroidit. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer en toutes circonstances. C'est la capacité que vous avez de supporter, de continuer à faire du bien à Gasparette qui vous critique. Tu aidais un frère, tu payais ses études et tu as entendu, tu as appris après que ce frère-là est parti voir quelqu'un et il a parlé mal de toi. Est-ce que tu vas continuer à l'aider? C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Si c'est un frère qui est convenable, qui tu l'aides, il est gentil, il s'occupe bien, il est convenable avec toi, vraiment correct, mais tu auras envie de continuer à l'aider? Ça, ce n'est pas un exploit. On a eu des parents même féticheurs, sorciers, qui nous ont fait du bien toute notre vie. Tant qu'on a marché correctement. Donc, il n'y a pas d'exploit à continuer à aider une personne quand elle se comporte bien. C'est qui relève de l'exploit? C'est continuer à faire du bien à une personne qui nous fait le mal. Amen, amen, amen. 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 Et c'est ce que Dieu veut qu'on ait. Sinon, l'état actuel dans lequel tu te trouves, ça c'est le commun des hommes. Tout le monde est comme ça. Tu ne fais pas d'exploit. Mais c'est lorsque tu seras capable de sourire, de faire du bien, de continuer à aider, sans hypocrisie, hein, avec Gasparette, alors là, tu as gardé l'amour et l'amour commence à croître. Et c'est ce vers quoi nous partons. Est-ce qu'on est d'accord pour faire ce voyage? Parce que Dieu peut le faire en toi. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce que ce passage dit. L'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand homme se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et il y a trois dimanches, nous avons expliqué les sept raisons pour lesquelles je dois aimer. La première raison, parce que l'amour c'est le fondement de la vie. La vie, le bonheur, la paix ne se retrouvent que lorsqu'on manifeste l'amour dont je parle là. Lorsqu'on aime, malgré les persécutions, malgré les critiques, c'est à ce prix-là qu'on trouve le bonheur. Le bonheur se trouve après la manifestation de l'amour. La paix intérieure se trouve après cela. On va mieux comprendre dans la suite. Amen. Donc la vie vient de l'amour. Tu dois aimer. Celui qui aime en tout temps, en toutes circonstances, celui qui aime va avoir de la vie. Celui qui aime va voir que dans son cœur, les chemins que Dieu a tracés sont plus clairs. La Bible dit que Dieu a tracé dans le cœur de tout homme les chemins de son destin. C'est-à-dire, un homme, s'il a un calme intérieur, il va voir en lui le cheminement pour son mariage, le cheminement professionnel, le cheminement par rapport à ses dons. Il va les voir. Toute ta vie, tout ce que tu dois faire, les personnes que tu dois fréquenter, les personnes que tu dois fréquenter, l'emploi que tu dois faire, les emplois que tu ne dois pas faire, toutes ces choses-là sont écrites dans ton cœur, mais elles ne sont pas perceptibles. L'amour éclaire tes sentiers. L'amour t'aide à voir le chemin. Si tu appliques ce dont je parle, l'amour en toutes circonstances et en tout temps, alors le chemin ou les chemins que Dieu a tracés dans ton cœur, parce que la Bible dit cela au pluriel, la Bible dit que Dieu a tracé dans le cœur de l'homme des chemins. Amen. Les chemins là seront clairs à tes yeux. Comment retrouver le cheminement dans mon cœur? Le cheminement de mon mariage, le cheminement pour l'éducation de mes enfants. Il y a un chemin pour éduquer tes enfants. Tu ne peux pas forcément éduquer tes enfants comme moi-même j'éduque mes enfants. Okay? Il y a un chemin, il y a une voie. Comment tu commences à être éclairé à ce propos? C'est avec l'amour. Alléluia. Il y a un chemin pour restaurer ton couple. Il y a un chemin pour restaurer ta maison. Il y a un chemin tracé. Dieu savait les adversités auxquelles tu aurais été confronté. Mais ce chemin-là te sera fermé si tu laisses la haine entrer en ton cœur. Mais si l'amour qui surpasse toute intelligence règne en toi, alors tu vas commencer de mieux en mieux à percevoir le chemin. Amen. Alléluia. La troisième récompense qui s'attache à l'amour, c'est que l'amour est la fondation de tous les autres commandements. C'est-à-dire, si j'applique l'amour, je deviens capable, j'arrive à appliquer tous les autres commandements. Vous savez, la Bible est un grand livre rempli de règles, de commandements, de principes de vie. Si vous écoutez 50 prédications, moi, vous allez dire, Dieu nous demande trop de choses à faire. On ne peut plus s'en sortir. Effectivement, si vous abordez la parole de Dieu en essayant de tout faire à la fois, il va se trouver que vous n'arriverez plus à un moment donné à obéir à certains commandements de Dieu. Rappelez-vous l'enseignement que je vous avais donné sur l'ordre, le principe de l'ordre et de l'organisation. On avait illustré la base de l'organisation sur ce fait-là. Comment ranger sa vie? On avait imagé ici des bocaux, n'est-ce pas? On avait pris des vases. Et puis, dans ces vases-là, dans un, on a rempli de sable. Le vase était rempli de sable. Donc, comme le vase est rempli de sable, on ne pouvait plus mettre, on ne pouvait plus faire entrer dans le vase une balle de tennis, n'est-ce pas? Et puis, j'ai voulu que dans un même vase, il y ait la balle de tennis et il y ait aussi du sable et des billes. Pour que toutes ces choses-là puissent entrer, il m'a fallu d'abord mettre dans le vase les balles de tennis en première position. Une fois que le vase a été rempli de balles de tennis, on a pu mettre les billes qui sont rentrées dans les espaces laissés entre les balles. Et puis après, on a mis le sable. Le sable est entré dans les espaces laissés par les billes. Mais lorsqu'on mettait le sable d'abord et que le sable remplissait les vases, ni les billes ni les balles ne pouvaient entrer. Donc si dans le vase, je veux tout avoir, je ne dois pas commencer par ce qui est plus petit, je dois commencer par ce qui est plus grand. Ça veut dire ce qui est plus important. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Si tu veux réaliser beaucoup de choses, ou bien si tu veux réaliser tout ce que Dieu attend de toi, ou ce que la vie attend de toi, commence d'abord par positionner dans ta vie ce qui est plus important. Si tu positionnes ce qui est moins important, ça veut dire ce qui est moins gros, les détails, tu ne pourras pas arriver à faire les choses importantes. Alléluia. Si tu commences par ce qui est plus important pour toi, tu vas voir que les choses simples de la vie, moins importantes, tu arriveras à les faire. C'est une règle de l'ordre. Ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, vous pouvez procurer toute la série à la communication. Enseignement sur l'ordre et l'organisation divine. Amen. Amen. Si vous avez le coffre de votre voiture que vous voulez remplir de bagages parce que vous faites un voyage, vous avez les grosses valises et vous avez des petites choses, des pièces, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous mettez d'abord dans le coffre? Les grandes valises. Une fois qu'elles sont positionnées, vous arrivez à mettre à l'intérieur les petites choses. Si vous commencez par mettre les petites choses, vous ne pourrez pas mettre les grandes valises. Amen. Vous êtes obligé d'enlever les petites choses, placer d'abord les grandes, et puis dans le trou, là, essayer de faire. La vie est comme ça. La vie est comme ça. Amen. Alors Dieu dit ceci, ma parole a beaucoup de commandements. Pour obéir à tous les commandements, commencez par le premier. Il dit, voici le premier et le plus important de tous les commandements. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Si tu commences par ces deux-là, alors tous les autres commandements, tu seras à même d'obéir. Ta vie de prière, tu vas pouvoir obéir. Dieu veut que tu lises la Bible tous les jours, tu vas arriver à lire la Bible tous les jours. Amen. Tu ne vas pas tomber dans le péché. Tu vas sortir de toutes sortes d'iniquités. Tu vas triompher du mal. Mais si tu commences par d'autres commandements moins importants, mais qui sont aussi les commandements de Dieu, quand bien même ces commandements-là auxquels tu obéis seront dans ta vie, il y en a d'autres auxquels tu ne pourras pas obéir. Si pour toi le commandement le plus important, c'est d'abord la prière et la méditation de la Bible, ce qui est très important, très 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 important. Mais si tu développes plus,
bon, comprenez bien, je n'ai pas dit de ne pas développer vos vies de prière. Voilà.
On les fait pratiquement en même temps. Mais dans l'ordre d'importance, ce que je veux dire, c'est que des chrétiens seront plus durs envers eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas arrivés à respecter un programme de prière. Et ils seront moins durs avec eux-mêmes lorsqu'il s'agit du sentiment qu'ils éprouvent vis-à-vis de notre frère. C'est-à-dire, si le frère, là, je n'aime pas sa tête, je ne vais pas lutter pour aimer sa tête. Mais par contre, je vais lutter pour prier. Je vais lutter pour arriver à jeûner. Dieu veut qu'on jeûne. Mais la façon dont tu mets du zèle pour jeûner, là, et la façon dont tu mets le zèle pour aimer tes ennemis, tu vois que tu mets plus de zèle dans le jeûne que du zèle à apprendre à aimer tes ennemis. Alléluia. Donc, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis à un commandement moins important que l'amour d'abord. Ce qui va se produire après, c'est que les autres commandements, là, à un moment, tu ne pourras plus obéir. Tu vas te rendre compte que malgré ta vie de prière, le mensonge est en toi. Malgré ta vie de prière, tu peux avoir les problèmes de masturbation. Tu pries, tu jeûnes dans l'église, on connaît quelqu'un qui fait, tu fais 40 jours, toutes ces choses-là. Mais il y a d'autres commandements que tu n'arrives plus à mettre en toi. Parce que tu es saturé de commandements importants, mais tu ne les as pas placés dans le bon ordre. C'est pourquoi il dit ceci, voici le premier commandement. C'est-à-dire, il y en a beaucoup, mais il y a un quand dit premier là. C'est-à-dire, c'est le P, c'est par lui on commence. Voilà, le B à bas. Jésus a dit, Dieu, quel est le commandement le plus important? Il dit, voici le premier et le plus grand. Donc, quand on dit premier là, ça veut dire, il y a premier puis il y a deuxième. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de commandements. Il faut jeûner, il faut prier. Tout ça sont des commandements. Tu ne commettras pas l'impudicité. Tu ne mentiras pas à ton prochain. Tout ça sont des commandements. Mais commence d'abord par apprendre à pardonner à Gasparette. Si Gasparette a fait, tu as des problèmes pour dormir avec les critiques de Gasparette, bats-toi pour pardonner les critiques de Gasparette. Et pour pouvoir sourire avec Gasparette. Bats-toi. Bats-toi pour ta vie de prière. Mais bats-toi plus pour cela. Quand tu vas arriver à le faire, tu vas voir que ta vie de prière ne sera plus en dents de scie. Elle va croître constamment. La méditation de la parole va croître constamment. Alléluia. Si j'obéis à ce qui est plus important, j'arrive à obéir à ce qui est moins important. Si je commence par ce qui est moins important, je finis par ne plus obéir même à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi. Ok, gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà. Quatrièmement, parce que, je dis parce que l'amour est le signe qui distingue les fils de Dieu. Lorsqu'on aime, l'amour est ce qui montre que nous sommes, que nous appartenons à Dieu. C'est ce que je vous ai expliqué. Ce ne sont pas les versets collés sur nos voitures, sur notre portail. Ce n'est pas la grosse Bible qu'on tient dans la main qui dit que nous sommes fils de Dieu. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'avait pas de Bible? Abraham n'avait pas de Bible. Est-ce que vous savez que Pierre n'avait pas de Bible? À leur époque, la Bible, dans son état, n'était pas encore rédigée. Donc, la parole était dans leur cœur. Et les gens les voyaient en disant, mais ceux-là, ils vivent avec Dieu. Ils marchent avec Dieu. Mais quand ils partaient à l'église, personne n'attrapait de Bible. On n'avait pas fini de la compiler. Ils marchaient comme ça, les bras ballants. Mais on voyait, on lisait Dieu en les regardant. C'est bien d'avoir la Bible dans ton sac. Mais Dieu veut que la parole là soit en toi. C'est pas le livre là. Il faut le lire. Il faut la voir toujours avec toi. Mais Dieu veut que ça soit dans ta vie. On dit Abraham, David a marché avec Dieu. Amen. Nous, c'est après Paul qu'on a conclu ce livre et on l'a écrit. Mais Paul, il est venu après les pierres. Donc, les gens, ils avaient des lettres. On a donc dit, c'était un peu la mode. Tu as la dernière lettre de Pierre. Oui. On dit, ce sont les Corinthiens qui ont ça. Il faut qu'ils amènent ça ici. Mais les gens cherchaient la parole. On dit, il paraît que Paul a écrit aux Thessaloniciens. Il paraît que c'est puissant. Ce qu'il dit aux Thessaloniciens, là, mon frère, il faut que ça vienne. Il fallait faire une copie. Il n'y avait pas photocopieuse. Donc les gens se déplaçaient à pied, aller chercher la dernière lettre aux Thessaloniciens pour pouvoir la recopier et pour pouvoir l'amener dans une autre église. Et puis on parle d'une église pleine de vie. On dit l'église primitive. Les gens luttaient pour avoir la parole de Dieu. Il paraît que Jacques a eu un réma, une dernière révélation dangereuse. On dit, où il a écrit ça? C'est Jacques. 1, 2, 3. On dit 5 livres. Mes amis. Amen. Amen. Dieu voisin aime Dieu. Amen, amen. Donc, c'est la parole, c'est l'amour qu'on voyait sur les croyants qui les distinguait. L'amour nous procure la paix de Dieu. Cinquième raison. Sixième raison, parce que l'amour est la clé de la réalisation de toutes les promesses divines. On l'a expliqué aussi la dernière fois. Septième raison, l'amour est la clé pour avoir la révélation de Dieu. Amen. Si j'ai l'amour, je veux avoir des révélations de Dieu. Donc, ce sont les sept raisons ou sept récompenses qui s'attachent à la manifestation de l'amour. Maintenant, nous allons rentrer progressivement dans l'application. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on applique? Pour pouvoir citer les cinq choix, je parlerai de cinq décisions à prendre, mais dimanche prochain. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler les quatre caractéristiques importantes de l'amour. Si vous comprenez ces caractéristiques-là de l'amour, vous saurez après, vous comprendrez mieux comment on vit l'amour. Pourquoi on parle de l'amour qui se refroidit ou de l'amour qui se réchauffe? Pourquoi? Comment l'amour fonctionne? Amen. Dis avec moi quatre. Quatre. Ok. Donc, quatre caractéristiques ou bien quatre caractères de l'amour de Dieu. La première des choses que je vous avais dites la dernière fois, c'est que l'amour même est mille. L'amour évolue ou bien se présente à trois niveaux. En trois niveaux. Les trois niveaux ou les trois dimensions de l'amour sont liées à l'être humain. Le corps humain ou bien l'homme est composé de trois parties. Du corps physique. Dans le corps, il y a une âme et il a en lui un esprit. Amen. Les trois parties que tu as, que nous avons, ont une manière différente de manifester ce qu'il appelle aimer. La chair n'aime pas comme l'esprit aime. L'esprit n'aime pas comme l'âme aime. Amen. C'est pas pareil. Et je vous ai expliqué cela. Je dis, c'est parce que dans le français est limité, qu'on appelle l'amour de la chair, on l'appelle aussi amour. Quelqu'un qui dit, j'aime le poulet. Et puis, il dit encore, j'aime ma femme. C'est le même verbe qu'on a utilisé, mais ça ne veut pas dire la même chose. Quand tu aimes le poulet, c'est pour faire du mal au poulet. Tu veux le manger. Mais quand tu aimes ta femme, c'est pour lui faire du bien. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Donc, ce n'est pas pareil. Quand tu dis j'aime le poulet est en danger. Quand tu dis j'aime ma femme, la femme, elle est tranquille. Ça va lui faire du bien. Amen. Donc, c'est déjà deux choses différentes. Mais en fait, il y en a trois. Il y a trois aspects différents. Amen. Quand je dis j'aime le poulet, le verbe n'est pas faux. Mais dans le grec, l'amour du poulet, c'est plutôt le plaisir que le poulet produit dans la bouche. Amen. Mais ce n'est pas seulement le poulet ou le plakali ou la tchéquée. Toutes ces choses-là que j'aime parce que ma langue aime. Ça veut dire, je dis que j'aime une chose parce que ma langue aime ces choses. Mais ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas seulement la nourriture. Je dis aussi que j'aime certaines choses parce que mon oreille les aime. Il y a certaines mélodies. Ah, je parle de Louis maintenant. Okay? Certaines musiques. Quand elles rentrent dans mon oreille, ça me fait plaisir. Donc, j'aime ce chant. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire j'aime mon enfant ou j'aime ma mère. Donc, ça c'est l'amour qui vient de Louis. Du fait d'entendre. Amen. Je peux écouter, peut-être parce que ça ne gagne pas se parler, la façon dont il explique la parole, j'apprécie. Donc d'où vient cet attachement? D'où vient cet amour? Ça vient de ce que j'entends. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Il y a les choses que j'aime parce que je vois. J'aime un film. Mais quand je l'ai vu, j'aime cet acteur. Quand il parle, quand il bouge, j'aime. J'aime cette chemise, c'est la vue. Alléluia. Alléluia. Ok. Donc, si vous regardez les cinq sens de l'homme, ces cinq sens-là créent en l'homme un certain plaisir et qui fait que l'homme les recherche. C'est aussi quelque chose qu'on appelle amour. Mais si tu regardes le grec, on va les classer dans le groupe d'amour qu'on appelle Eros. Amen. Cet amour-là n'est pas mauvais. Mais il est potentiellement dangereux lorsqu'il conduit votre vie. Parce que les yeux, l'oreille, le goûter, toutes ces choses-là, c'est votre corps physique. C'est ce qu'on appelle donc l'amour de la chair. Amen. Cet amour-là doit être contrôlé. S'il n'est pas contrôlé, il va détruire les choses que vous aimez et il va vous détruire vous-même. Dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13. 2 Samuel 13, lisez ce passage. Il est question d'un fils de David, du nom de Amon. La Bible dit que Amon est tombé amoureux de sa propre sœur, sa demi-sœur. La Bible dit qu'il l'aimait à la folie. Et avec un de ses amis bizarre, un gars diabolique, il s'appelle Jonadab, ils ont fait un complot et Amon a violé sa propre sœur du nom de Tamar. Lorsqu'il a violé, la Bible dit que son amour s'est transformé en haine. Il l'a détesté. Pourquoi? Parce que Amon, en fait, l'amour, entre guillemets, c'est pas ce que la Bible appelle l'amour, mais nous on appelle ça aussi amour. C'est l'attirance de la chair. Ça venait de sa chair. C'est parce que quand il la voyait, la Bible dit dans 2 Samuel 13 qu'elle était très belle. Quand il voit sa beauté, il voit sa démarche, tout ça là, il dit, hé! Donc ses yeux la désirent. Lorsqu'il entend parler, ses oreilles la désirent. Lorsqu'il voit sa forme, tout ce qu'elle fait, tout son corps la désirait. Mais ce n'est pas l'amour dont Dieu parle. Cet amour-là peut être dangereux. Lorsqu'il l'a violé, la Bible dit qu'après, il l'a détesté et la haine qu'il avait pour sa sœur était plus forte que l'amour qu'il a ressenti pour elle. Mes amis, c'est une des caractéristiques essentielles de tout ce qui est amour de la chair, du regard. C'est que la chair n'aime pas pour longtemps. Lorsqu'elle veut quelque chose, elle va vouloir cette chose-là en excès. Lorsqu'elle mange en excès, elle la prend en excès, elle finit par rejeter. Qui aime des glaces? Quel est le parfum que tu aimes? Malaga. Notre soeur aime la glace, parfum Malaga. Ok. Tu vois ce parfum de glace? Est-ce que tu le manges tout le temps? Si tu prends de la glace Malaga le matin, tu prends 3 glaces le matin, 5 glaces à midi, 10 glaces le soir. Qu'est-ce qui va se produire le lendemain? Ça va te dégoûter. N'est-ce pas? Donc, la chair, c'est comme ça. Lorsqu'elle aime une chose, elle s'y attache. L'excès amène la chair à détester la chose. Ça veut dire quoi? Que si la façon dont vous aimez votre mari ou votre femme est une attirance juste physique, pour sa beauté physique, pour le regard que vous avez d'elle, la façon dont vous la voyez, si vous aimez un homme à cause de sa manière de parler, c'est-à-dire quand il parle, on dit non, oh, regarde. Il sait me parler. Quand il me parle, lorsqu'il me parle, mon cœur, oh, vraiment. On dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. L'amoureux dont tu parles, c'est le même type d'amour que Amon. C'est parce que tu entends sa voix. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Ce truc-là va te décevoir plus tard. Le monsieur, quand tu vois la fille, elle brille, son teint. Quand je vois son teint, frère, je peux mourir. Lorsque tu vas habiter avec elle dans la maison, que tu vas la voir tous les jours, le corps va finir par la détester. Donc tous les couples qui sont basés sur tout amour qui vient des 5 sens, parce que j'ai vu son visage, j'ai entendu sa voix, sa manière de parler, son toucher, tout amour, tout couple qui est basé là-dessus n'est pas durable, ne peut pas tenir dans le temps. Parce que c'est comme ça la chair fonctionne. Elle ne supporte pas l'excès. Amen. Tous les matins, tu te réveilles, le même visage. Chérie, chérie, tu vas voir que ton chéri est un gros nez après. Chérie, un jour, deux jours, trois jours. Mais comment certains couples arrivent à tenir longtemps? C'est parce qu'il y a une autre règle qui rentre en ligne de compte. Un autre principe. C'est lui dont je vais parler en fait. Mais c'est ce principe-là qui n'est pas très développé dans beaucoup de croyants. C'est lui qu'on appelle l'amour agapé en fait. C'est lui qui permet de contrôler l'amour physique. L'amour physique n'est pas mauvais. Il faut que tu aies du plaisir à voir toujours ton conjoint. Il faut que tu aies du plaisir à entendre ton conjoint.
Ce n'est pas mauvais, c'est Dieu qui a créé cela. Mais Dieu veut que tu le contrôles. Comment elle contrôle les malagares? Elle sait que si elle en mange beaucoup, elle va détester. Donc peut-être elle va en prendre une fois par semaine. Ou bien même une fois, deux fois dans le mois. Mais ce n'est pas qu'on s'en fait avec les glaces. On n'en mange pas trop. Sinon, on va finir par détester. Donc, on contrôle. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, est-ce que vous me suivez? Qui est avec moi? Mais il y a des choses, je me suis rendu compte qu'il y a des choses pour vous montrer que quand l'amour agapé est en place, on peut manger une chose tout le temps. Je veux dire, l'amour physique, là, il ne disparaît pas. Tu peux faire, quand l'amour agapé est là, tu peux faire un excès de choses que tu aimes sans que cela te dégoûte. Mais si l'amour agapé n'est pas là, tout ce qui est amour physique va finir par te dégoûter. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Comment je peux... Il y a des choses qu'on mange tout le temps sans en être dégoûté. Prenons nos frères Baoulé. Quel repas vous mangez tous les jours, non-stop? Un bon Baoulé qui vient, qui a grandi au village. Tu peux avoir tout, mais dans la journée, c'est quelque chose. Chacun a son truc. Hein? Les bêtises, c'est quoi? Il faut un peu de riz quand même. Non, franchement, si tu as grandi au village, maintenant la ville, la nourriture est diversifiée. On frime un peu, quoi. Mais quand tu es né, depuis que tu es petit, le foutou, igname. Avec quelle sauce? Mais où vous êtes, les... Chez nous, le tola. Tu arrives au nord, tola. On mange ça tout le temps, sans en être dégoûté. Un bon bété, il te mange son riz. Ça dit, il peut l'aligner tous les jours, sans problème. Ou bien? C'est ça, non? Alors, la question que je me suis posée, mais comment ça se fait que la chair ne rejette pas quelque chose qu'elle fait tout le temps? Dieu m'explique. Il dit, mais c'est simple. C'est parce que le plaisir qu'il trouve à manger ce repas-là, ça ne vient pas parce que c'est un repas qu'ils ont choisi au départ. En fait, depuis qu'ils sont petits, ils ont mangé cela pas par désir. Ils ont mangé cela parce que c'est ce qu'on leur donnait à manger. C'est-à-dire, ce n'est pas un choix de goût. C'était d'abord un commandement. Dans notre tradition, on mange ça. C'est une loi. Le désir de manger ton foutou n'a pas commencé parce que tu as aimé le foutou. Il a commencé avant même que tu aimes le foutou. Alléluia. C'est-à-dire, il y a une loi. Au village, c'est votre repas. Chez tes parents, c'est le repas. Donc en fait, tu n'as pas eu le temps même de faire un choix. Il n'y a pas eu en toi de désir. Et tu l'as fait constamment et à un moment donné, le désir même a suivi. C'est-à-dire, si tu as fait 2 jours sans un riz, aïe. Donc on a nos frères qui vont en Occident, ils ont fait 1 semaine sans garba. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. Mais vous voyez, il y a d'autres plats, d'autres plats qu'on aime bien. On aime bien les frites poulet, par exemple. Mais les frites poulet ne sont pas pour nous une éducation. C'est quelque chose qu'on a désiré. Ce qui fait que il te sera très difficile d'en faire en excès. Si tu manges les frites poulet matin, midi, soir, matin, 2 jours, tu les rejettes. Par contre, si tu manges tes repas de naissance, qui étaient des lois, tu peux les manger tous les jours sans que tu les rejettes. Quelqu'un a dit avec moi? Amen. Amen. C'est vrai, moi-même j'aime frites poulet. Mais tous les jours, c'est pas bon. Bon, malheureusement, chez moi, je n'aime pas le cabateau là. C'est de ma région, mais bon, quand je suis né, on ne nous a pas trop donné. On a eu des repas très variés, donc on s'est plus attaché peut-être au riz. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est important. Donc, ce qui vient par la loi et que j'applique sans désir finit par créer en moi le désir. Et le désir que j'ai ne finit pas. Il reste dans le temps. Ce que je décide de prendre dans ma vie, simplement parce que j'en avais envie, si je prends cette chose-là et que je la garde longtemps, je vais finir par la rejeter.
Elle va finir par me dégoûter, pardon. Je vais finir par la rejeter. Est-ce qu'on est ensemble? Ça va? Amen. Donc, l'amour n'est pas un sentiment. J'arrive là-dessus tout à l'heure. Vous avez l'amour éros avec les cinq sens, tout ce que ma chair désire. Et vous avez l'amour de l'âme. L'âme, lui, ce n'est pas les choses qu'il voit. C'est vrai que c'est la chair qui l'influence au début. Mais l'âme s'attache à des choses ou à des personnes. C'est ce qu'on appelle l'attachement. Dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est philéo. On peut dire l'amour filial. C'est l'amour filéo, l'amour attachement. Cet amour-là est bien. Il donne du plaisir à une relation. Ça veut dire que tu es attaché à ton mari, tu es attaché à tes enfants, tu es attaché. Mais cet amour-là est bien parce qu'il donne du plaisir à la relation. Mais il a un problème. C'est qu'il ne supporte pas les trahisons et les frustrations. Ça le détruit. Ou bien ça détruit la personne qui porte cet amour. Toute souffrance vient de l'attachement. La souffrance émotionnelle. Quand on dit mon cœur est brisé, mon cœur est blessé, je pleure dans mon âme. Cette souffrance-là, elle naît parce que tu t'es attaché à une chose donnée. Nous avons, par rapport aux événements qu'a connu la Côte d'Ivoire, nous avons tous souffert, n'est-ce pas? Intérieurement. On a pleuré, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nos âmes sont attachées à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en ce moment-là aussi, bon, ça bombarde en Libye. Peut-être que pendant que ça bombardait ici, peut-être que tu as fait deux ou trois jours même. C'est pas parce que tu n'as même pas faim. Mais ça bombarde dans Libye. Ça nous fait peut-être mal de penser à tous ceux qui sont en train de souffrir, là où il y a des drames. Mais vous savez, on souffre moins parce qu'on n'est pas attaché. Il y a eu un grand tremblement de terre en Haïti. Ça t'a empêché de dormir? Ça t'a empêché de manger? On sont des hommes comme toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché à ce pays. Ça t'a fait mal. Et les gens, ils souffrent. Dieu, vraiment, ait pitié d'eux. Tu as prié. Mais tu n'en as pas souffert émotionnellement parce qu'il n'y a pas d'attachement. Si par contre tu es attaché à quelqu'un ou à quelque chose, la souffrance de cette chose-là te fait souffrir. Amen. Ça, c'est l'amour filéo. Donc, si j'aime mon mari avec filéo, s'il me trompe, s'il me trahit, j'en souffre énormément. Amen. Donc, l'amour filéo, il est bien, mais il ne supporte pas tout. Pour contrôler l'amour éros, c'est-à-dire l'amour des cinq sens et l'amour de l'âme, il faut un autre amour, le troisième degré, qu'on appelle l'amour agapé. C'est de cela que Jésus parle. C'est ce sur quoi nous sommes en train d'enseigner. C'est la première caractéristique de cet amour. L'amour dont la Bible parle, qui est l'amour principal, essentiel, c'est l'amour agapé. Jésus dit de lui, il dit, on dit Seigneur, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le grec, le mot qui est dit, c'est le mot tu vas agapao, ton prochain, comme toi-même. Pas tu vas philéo, ni tu vas eros. Amen. Quand on dit tu vas aimer tes ennemis, mes amis, un ennemi, on ne peut pas s'attacher à lui. Mais la Bible dit tu vas l'aimer. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement. Voici le premier commandement, ou bien voici la première loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Ça, c'est cet amour-là que nous sommes en train de développer et nous allons apprendre à le faire. Donc, lui, par contre, c'est un amour qui ne ressent rien. Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de désir. Et c'est ce qui nous fatigue. Parce qu'on ne ressent rien pour l'appliquer. J'ai expliqué la dernière fois, je reviens là-dessus. On ne peut pas te donner une loi de tomber amoureux de quelqu'un. On dit, voilà, Gasparette. Mon frère, premier commandement, tombe amoureux. Mon frère, tu tomberas amoureux de Gasparette. Il n'y a pas un ordre à l'amour. Ce n'est pas forcé. Tomber amoureux, c'est une réaction. Donc, quand Dieu dit, voici la loi, tu veux aimer ton prochain comme toi-même, il ne s'adresse pas à tes sentiments. Parce que les sentiments, là, on ne leur donne pas un commandement. Ça est là ou ça n'est pas là. Donc, quand on parle d'un commandement, on s'adresse à autre chose. C'est-à-dire, l'esprit, là, il fait un choix. Il décide d'aimer ou de ne pas aimer, de agaper ou de ne pas agaper. Amen, amen. Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique de l'amour. L'amour dont parle le Seigneur est un commandement. Alléluia. C'est un commandement. C'est-à-dire quoi? Pour que
je commence à avoir les sentiments et que mes yeux prennent du plaisir, par exemple, à voir mon conjoint, toujours sans que ça finisse, je dois d'abord respecter une loi. Vous me suivez? La Bible dit, tu aimeras ton ennemi. Pour pouvoir même avoir un peu d'affection, l'affection ce sont des sentiments, pour mon ennemi, pour que ça commence, il faut que d'abord j'obéisse à une loi. C'est-à-dire, je vais commencer à faire du bien à mon ennemi, pas parce que j'ai envie, mais parce que je suis obéissant à Dieu. L'amour agapé, on y obéit, on ne ressent rien. C'est-à-dire, Gasparette a critiqué la veille. Tu vas aimer Gasparette, c'est continuer à faire du bien à Gasparette, malgré le fait que tu n'en aies pas envie. Hier, tu saluais Gasparette. Aujourd'hui, vraiment, tu as appris que Gasparette s'est moqué de toi. Mais tu viens quand même. Sœur Gasparette, comment vas-tu? Ton cœur te brûle. Il dit non. Ta chair ne veut plus. Mais c'est un commandement. C'est pourquoi il dit, voici le premier commandement. Ce n'est pas une affaire, voici la première envie que tu dois avoir. On n'a pas dit, voici le premier sentiment. Ce n'est pas un sentiment, c'est un ordre. Donc, un ordre, c'est une loi. L'amour véritable de Dieu commence par une obéissance sans sensation. Je ne sens rien. Je regarde des principes et puis je décide de les faire. C'est ce que j'expliquais par rapport. C'est-à-dire, mais le sentiment va venir après. Dieu n'est pas contre les sentiments. C'est Dieu qui a créé les sentiments. C'est Dieu qui a créé l'attirance physique. Un homme, une femme doit désirer physiquement son conjoint. Amen. C'est important. Mais on ne va pas rester dans notre couple d'abord à cause de cela. On va commencer par le premier principe. C'est lequel? C'est que ma femme, je serai correct avec toi. Que j'ai envie, que je n'en ai pas envie. Mon mari, je serai correct avec toi. Que j'ai envie, que je n'en ai pas envie. Ce n'est pas une affaire d'envie, c'est une décision. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je vois Gasparette qui me fait du mal, je décide, à cause de Dieu, de lui faire le bien. C'est parce que je le fais à cause de Dieu que ce n'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrisie, je souhaite le mal, je ris à la personne, mais dans mon cœur, je lui veux du mal. L'autre, c'est pas ça. Seigneur, je n'ai pas envie de le faire, mais suis ta parole. Parce que toi, Dieu, tu l'as dit, je le fais. C'est de l'obéissance, c'est pas de l'hypocrisie. Parce que tu le fais à cause d'une parole. Il a dit, fais du bien à tes ennemis. On n'a pas dit de faire du bien à ceux à qui tu as envie de faire le bien. Tu fais du bien à tes amis. Ça, tout le monde sait faire ça. Maintenant, ceux qui ne sont pas tes amis là, il faut leur faire du bien. Ceux qui t'ont combattu, fais-leur le bien. Fais-leur du bien. Pas par désir, mais par principe d'obéissance à Dieu. Si tu agis de la sorte, tu vas commencer à voir naître dans ton cœur les sentiments. Et puis après, tu vas finir par apprécier. Amen. Tu vas t'asseoir avec ton ennemi, mais tu vas voir que vraiment, tu as de la compassion pour lui. Tu ne ressens plus le rejet. C'est le même principe, comme j'expliquais pour la nourriture. Au début, quand tu es né, dès que tu as pu manger un peu, tes parents, kabato, riz, tous les jours. Tu ne dis pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Non, mange-moi. Parce que c'est ce qu'on a. Comment on va faire? Et puis après, ça reste en toi. Et à la fin, si tu vas dans un autre pays et que tu fais 3 jours, 1 semaine, sans manger ce repas familial, traditionnel, tu n'es pas... Tu peux trouver du plaisir à aller prendre des glaces de temps à autre, mais la glace, tu ne peux pas faire en excès. Tandis que ta nourriture traditionnelle, tu peux faire l'excès. Tout ce qui commence par le commandement peut se faire longtemps. Mais ce qui commence par les sentiments et les désirs va finir par être rejeté. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et nous allons vers la fin pour aujourd'hui. Donc l'amour est un commandement. Et l'amour dont je parle, l'amour de Dieu est déjà dans votre cœur. Romains chapitre 5, verset 5. Il est dit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Pas que l'amour sera répandu. L'amour dont je suis en train de parler est déjà en toi. Dis à un voisin, il est en toi. Il est en toi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'amener à sortir. Lorsque cet amour-là se manifeste, notre vie est épanouie. Je vous assure, dans la vie,
vous êtes tranquille. Les angoisses, les pleurs, vraiment, l'amour vous donne la paix. Il y a trois niveaux dans l'amour, Eros, Philéo, Agapé. Ce dont nous parlons, c'est Agapé. On commence par Agapé qui va créer le bon Philéo, qui va canaliser le bon amour Eros. Première chose. Deuxièmement, Agapé, là, c'est un commandement. Alléluia. Je décide d'obéir ou je décide de ne pas obéir. Amen. Troisième chose, c'est que Agapé est déjà en moi. Si j'ai donné ma vie à Jésus, il existe en moi. Je n'ai pas à aller le prendre dehors. Il existe en toi. C'est un trésor. Et c'est là maintenant le quatrième point ou la quatrième caractéristique de l'amour. C'est que l'amour selon Dieu est un trésor et une mine de bonheur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Est-ce qu'on peut le lire ensemble ce passage? 1, 2, 3. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Nous portons quoi? Qui porte le trésor? Nous. Toi, tu as un trésor. Regardez, voisin, il y a un trésor qui porte. Il dit, nous portons ce trésor. Mais ce trésor est dans un corps. Il dit, Paul décrit cela comme, il dit, nous le portons dans un vase de terre. C'est-à-dire, il y a une richesse qui est là, mais la richesse là est positionnée dans un vase, dans un récipient qui est fait en argile, dans la boue. Et ce récipient là, c'est notre corps physique. Vous savez que l'homme vient de la poussière, n'est-ce pas? Le corps humain, le corps physique vient de la poussière. Ce qui me plaît dans ce passage, c'est que la Bible dit que tous les hommes nés de nouveau, portent en eux un trésor. Dis avec moi un trésor. Un trésor. Dis, voisin, regarde-moi. Ici, il y a un trésor. Alors, quelle est la particularité d'un trésor? Pour qu'une chose soit un trésor, il faut que la chose soit rare. C'est pas vrai? Si la chose n'est pas rare, est-ce que ce sera un trésor? Est-ce que la tchèque est un trésor? Mais en période de crise, la tchèque, je vous assure mes amis, c'était un trésor. Dans les moments difficiles, la tchèque était un trésor. Il y a beaucoup d'achèque en Côte d'Ivoire, donc la tchèque n'est pas un trésor. Donc le trésor, lorsqu'on parle d'un trésor, c'est une chose qui est rare. Ça veut dire que Dieu a mis, nous portons en nous quelque chose de rare. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais cette chose-là est recouverte par de la terre. Ça veut dire, quand tu regardes, tu ne vois pas le trésor. Tu vois un homme, une femme, mais elle ne sait pas qu'il y a quelque chose de rare, quelque chose d'unique. Nous portons un trésor. Si cela est un trésor, c'est qu'en toi, il y a quelque chose qui est rare. Amen. Sinon, ce n'est pas un trésor. Parce qu'un trésor est rare. Une chose qui est vulgarisée, qu'on trouve partout, ne peut pas être un trésor. Amen. Deuxième caractéristique d'un trésor. Un trésor, non seulement c'est rare, mais c'est caché. Amen. Amen. Si c'est mis à la vue de tout le monde, ce n'est pas un trésor. Qu'est-ce que je veux dire? L'or est très précieux. Amen. Mais l'or, lorsqu'on va dans les vitrines des bijoutiers, ce n'est pas un trésor à découvrir. Lorsqu'on parle de trésor, il y a aussi la notion de caché. Vous voyez, non? Si je vais creuser et je trouve une mine d'or, je vais y découvrir un trésor. Si je vais chez les bijoutiers, au marché, je rentre chez le bijoutier, je vois, il a des chaîne en or, je n'ai pas dit j'ai découvert un trésor. On dit mon frère, qu'est-ce que tu fais? Je viens de découvrir un trésor. Mais cherche les bijoutiers, ils vont ça. C'est sur la rue là, ouais trésor. C'est vrai que ce qui a là de la valeur, c'est rare, mais ce n'est pas un trésor. Parce que c'est aux yeux de tout le monde. Donc ce n'est pas un trésor. Lorsqu'on parle de trésor, c'est que la chose est cachée. Mes amis, ce que j'ai envie de dire, Dieu a mis en toi quelque chose de grand qui est caché même à tes propres yeux. Moi-même, moi je suis. Je sais que je ne connais pas ma femme. Ma femme ne me connaît pas. Ton voisin ne te connaît pas. Toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé. Ce que Dieu a mis en vous n'est pas visible au premier coup d'œil. Tu ne peux pas connaître ce que Dieu a déposé à une personne en la saluant. Ce que tu es est caché. Tout ce qu'on voit sur toi, là, c'est le vase, la poussière. La manière dont tu souris, mais le trésor à l'intérieur. Nous portons un trésor. Amen. Et troisième caractéristique du trésor, c'est que le trésor a de la valeur. Il est précieux. Alléluia. Si tu découvres ce trésor, quand tu découvres un trésor, tu te dis, j'ai eu le bonheur. Parce que quand tu as découvert du diamant, la quantité, l'avenir des enfants est assuré. Amen. Lorsqu'on trouve un trésor, on trouve une forme de bonheur. On trouve un bonheur. La Bible dit que l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ce trésor merveilleux ne peut être dévoilé que par la manifestation de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, le voleur vient pour dérober, pour détruire. Et puis il dit ceci, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient avec abondance. Mes amis, nous avons déjà la vie en Jésus. Mais Dieu veut que cette vie-là soit abondante. L'amour agapé est celui qui permet de faire ressortir la véritable valeur, le trésor qui est en nous. Pour trouver l'amour agapé, cet amour qui est le bonheur, parce que c'est Dieu, la Bible dit que Dieu est amour. Pour le trouver, il faut être prêt à payer le prix de dépasser vos sensations physiques. Quand vous allez trouver ce trésor qui est l'amour, la Bible dit que Dieu est amour. Or, Dieu est un trésor. Alléluia. Dieu est en nous. Donc, Dieu n'est pas, la véritable révélation de Dieu là, n'est pas apparente. C'est parce que vous me voyez prêcher comme ça que je connais Dieu. C'est quelque chose de très profond, de caché. Amen. Qu'il faut rechercher. L'amour vrai. Vous devez le rechercher au-delà de vos sentiments. C'est-à-dire, quand les choses dans la vie te frustrent, quand tu es profondément déçu, c'est un peu comme si tu es en train d'enlever le vase de terre, la poussière, pour aller chercher. Quand tes émotions sont froissées, quand tu as été trahi quelquefois, si tu sais te ressaisir, tu es sur le chemin d'aller faire ressortir le trésor. Parce que le trésor se trouve après les choses évidentes. C'est évident de détester celui qui fait le mal. C'est évident de rendre le mal pour le mal. Ça, c'est évident. Mais un trésor n'est pas évident. Si vous voulez trouver le trésor de la vie, apprenez à aimer quand on vous fait le mal. Apprenez à pardonner les personnes les plus mauvaises et les plus méchantes. Apprenez à vous asseoir avec elles à cause de Dieu. Apprenez à faire du bien à leur vie à cause de Dieu. Pendant que le vase poussière est en train de dire, c'est pas possible. Un homme qui a fait tant de mal, comment je peux rire avec lui? Va au-delà, va au-delà. Le trésor se trouve là. Le trésor est toujours caché. Lorsque tu vas le trouver, tu auras trouvé ton bonheur. Tu auras trouvé la vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci Jésus. Et c'est ce chemin-là que nous allons entreprendre. La première des choses, nous allons parler donc la prochaine fois des cinq décisions ou bien des cinq choix à faire pour manifester ce trésor qu'est l'amour, qui va vous donner la paix, le bonheur, qui va vous montrer le chemin. Ce n'est pas, quand on parle contre quelqu'un qui dit, oh, peut-être l'amour là c'est évident pour passer à nos gosses, c'est évident. Ce n'est évident pour personne. Parce que justement, c'est un trésor inestimable que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le premier commandement. Cherchons à l'appliquer. Nous allons étudier cinq choix, cinq décisions à prendre qui vont manifester l'amour que nous avons pour Dieu. Et puis après, nous allons étudier un certain nombre aussi de décisions à prendre pour manifester l'amour du prochain. Donc l'amour agapé commence par des décisions. Parce que c'est un commandement. Je regarde et je décide d'obéir. Je ne cherche pas à ressentir quelque chose. Amen. Je fais ça seulement. Quand je vais commencer à obéir, il va se produire que mes sentiments vont commencer à aimer faire. Je vais prendre du plaisir physiquement aussi à faire ces choses. Alléluia. Alléluia. Mais ça ne commencera pas forcément comme cela. Il y a deux fois, je serai amené à faire des choses que je n'apprécie pas dans mon âme et dans mon corps. Mais à cause de Dieu, je poserai ces actions, je poserai ces actes. Et c'est ce que nous verrons. Donc, dès dimanche prochain, cinq choix ou cinq décisions à prendre pour manifester l'amour de Dieu. Alors, pour ce que nous avons reçu ce matin, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur, prier l'Éternel notre Dieu. Que Dieu nous donne d'être persévérants en ce qui concerne l'amour. Que Dieu nous donne d'aller de l'avant, d'être prêt à payer le prix pour le voyage de l'amour. l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Que nous soyons de ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin. De ceux qui, malgré les revers de la vie, malgré les incompréhensions de la vie, vont jusqu'au bout. Nous devons ce matin faire le choix, ce midi faire le choix de le servir, le choix de faire la volonté de Dieu. Parlons au Seigneur, prions Dieu, parlons à Dieu, que chacun parle pour sa propre vie. Par rapport à ce que tu as reçu au travers de ce message, ce matin, prie le Seigneur ton Dieu. Merci Seigneur. Tu vas lever les mains vers Dieu, vers le trône de Dieu, je vais prier. Éternel, tu as répandu ton amour dans notre cœur. Nous avons vu que cet amour est un trésor répandu, caché dans des vases de terre que nous sommes. Afin que, Seigneur Dieu, de par la manifestation de cet amour, de ce trésor, nos vies, la vie de nos proches, la vie de ce pays et de tout territoire vers lequel tu nous enverras soit béni. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, donne-nous la détermination. Seigneur, donne-nous la volonté d'aimer. Donne-nous la volonté de persévérer dans l'amour. Donne-nous la volonté de persévérer dans l'amour du prochain et dans l'amour de ta personne. Seigneur, donne-nous la volonté. Remplis tes servantes et tes serviteurs en ce lieu de cette force, de ce zèle pour la seule gloire de ton nom. Merci pour la vie dans nos cœurs. En nous, merci pour ton amour. Seigneur, que ton amour soit répandu dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas en ce lieu. Si quelqu'un est venu ce matin et n'a pas encore fait la paix avec toi, donne-lui de te rencontrer simplement au travers de ses paroles, de t'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Seigneur, ceux qui t'ont connu, qui en ce moment dans leur cœur ont vu en eux la colère, l'amertume, la haine, donne-leur en ce jour de décider de pardonner. Parce que ta parole demande, dit de le faire. De décider, Seigneur Dieu, d'aimer. De décider de faire le bien à ceux, Seigneur Dieu, qui ont fait du mal. Oh Dieu des cieux, apprends-nous ton caractère. Cette éducation spirituelle est manifestée dans nos vies, dans le nom de Jésus. Je crois aussi, Seigneur, que tu guéris les frères et les sœurs qui sont là physiquement même malades dans leur corps. Je crois en la puissance de la restauration et de la guérison divine maintenant, dans le nom de Jésus. Car lorsque nous parlons de l'amour, la vie de Dieu est manifestée. Et je m'attends maintenant, je vois maintenant la guérison dans les corps, les douleurs qui sont en train de disparaître, les maux divers qui disparaissent dans le nom de Jésus. Je vois la santé spirituelle, la santé physique qui atteint et qui entre, qui touche le corps des enfants de Dieu dans cette salle, au nom de Jésus-Christ. Je vois cette personne-là qui avait la hanche comme bloqué et qui est empêché de faire des mouvements parce que depuis plusieurs jours, sa hanche a été comme bloquée. Je vois le Seigneur qui touche ta hanche maintenant et tu es guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton nom pour le vent de restauration, de guérison, de délivrance qui est notre partage au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour ta parole. Merci pour ces instants au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons bénir Dieu par nos acclamations.
Vous avez été bénis par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.